le micro du soir, Aïchla RFI.
Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, le micro du soir. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle fois en compagnie de Monsieur l'ambassadeur de France en Moldavie, Graham Paul, après un premier entretien réalisé en novembre 2022, soit environ 9 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. J'ai voulu l'interviewer à nouveau afin de faire le point sur la situation en Moldavie à partir de son regard de diplomate. Avant la Moldavie, Graham Paul a été ambassadeur de France auprès de la République d'Islande pendant 4 ans, et précédemment, il a occupé différents postes au sein du ministère français des Affaires étrangères, consul général à Chicago et à Munich, conseiller politique à Tokyo, entre autres. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation au micro du soir. Alors, en novembre 2022, quelques mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, vous nous confiez que votre ambassade avait été en situation de gestion de crise, notamment suite à l'arrivée importante d'Ukrainiens en Moldavie, et vous avez aidé à coordonner l'énorme élan de solidarité pour ces réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, quelle est la situation? Quelle est leur situation? Y a-t-il toujours des arrivées?
Oui, la situation a beaucoup changé. Elle est, je dirais, aujourd'hui sous contrôle. On est passé d'une situation de crise humanitaire à une phase différente qui est la gestion de la population ukrainienne, puisqu'ils sont près de 100 000. Les chiffres varient parce qu'il y a des allers-retours, compte tenu notamment de la proximité de la région d'Odessa. Il y a des personnes qui vont vers Odessa, qui reviennent d'Odessa. Ça dépend aussi des frappes sur la région, ça dépend aussi de la situation énergétique en Ukraine. Mais disons qu'aujourd'hui, on estime autour de 100 000 réfugiés, essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées, qui continuent de bénéficier d'un soutien très fort de la population, des autorités moldaves, du HCR bien sûr, mais aussi des ONG qui sont très présentes. Aujourd'hui, encore une fois, la problématique est un peu différente, puisque la plupart des réfugiés sont hébergés, sont pris en charge, y compris financièrement d'ailleurs. La problématique est donc aujourd'hui plutôt celle de l'inclusion, c'est-à-dire leur permettre d'avoir un accès au marché du travail, et pour les enfants, aux établissements scolaires. Donc il y a un gros effort qui est fait de ce côté-là, sans oublier aussi les communautés d'accueil moldaves qui ont besoin aussi de soutien, souvent, notamment dans les campagnes, c'est les communautés qui sont pauvres, dépourvues de moyens, et donc il y a notamment le Programme alimentaire mondial qui les aide, y compris financièrement, pour soutenir leur générosité et l'hospitalité qu'ils offrent aux communautés ukrainiennes. Mmh. Donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Et maintenant, la situation doit être gérée, bien évidemment. Il ne faut pas exclure que dans le futur, les choses puissent se détériorer. Personne ne le souhaite, bien évidemment. Mais il y a aussi des plans, je dirais, d'urgence qui sont préparés, notamment par le HCR et les autorités moldaves. Mais tout le monde espère qu'ils n'auront pas à avoir recours à ces plans d'urgence parce qu'aujourd'hui, la situation est, je dirais, stabilisée.
Mmh. Alors, toujours lors de notre premier entretien, vous rappeliez que 30% de la population moldave avait émigré à l'étranger, que la Moldavie souffrait de carences en termes de main-d'œuvre, de ressources, que cette capacité était limitée. Heureusement, il y a la solidarité internationale et surtout l'aide importante de la Roumanie qui, comme vous le rappeliez, chauffe la Moldavie et lui procure son électricité. Je lisais récemment d'ailleurs que le pays a commencé à relier son réseau électrique à celui de la Roumanie. De façon générale, où voyez-vous des améliorations? Où sont les blocages?
L'amélioration la plus spectaculaire, vous y avez fait référence, c'est le secteur de l'énergie. Effectivement, quand on s'était parlé, il y avait une vraie crise énergétique, menace de rupture de l'approvisionnement en gaz, mais aussi l'approvisionnement en électricité, parce qu'il ne faut pas oublier que 80% de l'électricité consommée par la République de Moldavie vient d'une centrale électrique qui se trouve en Transnistrie. Et donc, au mois de novembre 2022, le contrat avait été suspendu. Et il y avait donc des menaces de coupure électrique. Heureusement, la Roumanie a permis de survivre cette phase difficile, mais bien évidemment, tout cela avait un coût, puisqu'il fallait s'approvisionner en électricité de manière urgente au prix du marché, et le prix du marché est plus élevé que le prix que peut offrir la centrale électrique transnistrienne. Donc, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en quelques mois, il y a eu un basculement total, je dirais, sur le plan énergétique. Aujourd'hui, la République du Moldavie, du moins le territoire contrôlé par Chisinau, n'a plus besoin de gaz russe, ne consomme plus de gaz russe, il s'approvisionne ailleurs sur le marché international.
Pas seulement en Roumanie.
Pas seulement en Roumanie, non. Et par exemple, ils ont acheté du LNG américain qui arrivait par la Grèce. Ils achètent aussi du gaz qui arrive d'Azerbaïdjan. Donc, il y a différents fournisseurs, mais effectivement, la Roumanie est parmi ceux-là. Et le stockage, il n'y a pas d'infrastructure de stockage en Moldavie, mais il y en a en Roumanie. Et donc, une partie du gaz acheté par la Moldavie l'été est stockée en Roumanie et en Ukraine, parce que l'Ukraine a aussi de grosses capacités de stockage. Donc pour le gaz, la situation, je dirais, est réglée d'une certaine manière. Ils ont réussi à faire ce passage d'une totale dépendance vis-à-vis du gaz russe à une totale indépendance au gaz russe. Si je mets de côté la Transnistrie, qui est une situation particulière, parce que la Transnistrie ne paie pas le gaz que la Russie lui fournit. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun intérêt à réduire cette dépendance, puisqu'on leur donne le gaz.
Et pour rappel, excusez-moi, je vous coupe, monsieur l'ambassadeur, pour rappel, oui. Donc la Transnistrie, cette enclave autoprogrammée voilà, indépendante qui est sous le joug de Moscou. Hein. Ouais, ouais.
Voilà, depuis 1992, il y a un conflit meurtrier. L'électricité, c'est plus compliqué parce que aujourd'hui, les infrastructures sont insuffisantes. Les infrastructures datent encore de l'Union soviétique. La principale ligne à haute tension, en fait, passe par la Transnistrie. Là aussi, on voit le rôle de la Transnistrie sur le plan énergétique. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une centrale transnistrienne qui fournit la majorité de l'électricité, 80% de l'électricité consommée en République du Moldavie, sur le territoire contrôlé par les autorités de Chisinau. Donc, pour diminuer cette dépendance, il y a une seule solution, c'est le rattachement au marché européen, ce qui a été fait dès 2022 pour l'Ukraine et comme la Moldavie, ce rattachement à ce qu'on appelle NCOE. Et puis, bien évidemment, ils font construire de nouvelles lignes à haute tension. Il y a deux projets, un dans le sud, un dans le nord. Celui du sud a déjà commencé. Ils ont commencé à construire les premiers pylônes qui permettront en fait un approvisionnement d'électricité qui viendra du marché européen et essentiellement de la Roumanie. Ce qui est déjà possible, mais pas pour la haute tension, ou très faiblement. Donc ça, dans 3, 4, 5 ans, il y aura une sorte de sécurité énergétique pour la Moldavie, qui est une situation tout à fait inédite, puisqu'ils étaient totalement dépendants à la fois du gaz de Gazprom russe et d'une centrale électrique qui est la propriété d'une société russe qui se trouve en Transnistrie. Donc c'est là les progrès les plus significatifs, les plus emblématiques. Il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué, on le voit bien, vous posez la question où sont les points de blocage. La justice est toujours un vrai sujet ici, la réforme de la justice, c'est très compliqué. Il y a des réticences de la part des juges, des procureurs. Et là, c'est difficile parce que ce sont des institutions autonomes, indépendantes, et donc le gouvernement fait pression. Il y a eu tout un processus de...
Quand vous dites, excusez-moi, je vous interromps, quand vous dites qu'il y a de la part de juges, de procureurs, qu'il y a un manque d'ouverture, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Un manque d'ouverture,
ils ne veulent pas... Je vais donner un exemple très précis, il y a un processus qu'on appelle d'évaluation des juges et des procureurs qui est en cours, qui a été engagé, je dirais, au plus haut niveau, à la fois au Conseil supérieur des juges et Conseil supérieur des procureurs. Et ce processus d'évaluation de l'intégrité a montré d'abord qu'il y avait un vrai sujet, puisque par exemple pour le Conseil supérieur des juges, il y avait 28 candidats et seulement 5 ont été retenus. Donc 5 simplement ont passé l'examen d'intégrité. Donc vous voyez, ça pose un problème. Et la deuxième difficulté, c'est qu'une fois que ces personnes-là ont été sélectionnées par une commission indépendante et internationale, puisqu'il y a à la fois 3 Moldaves et 3 représentants en fait des représentants de l'Union européenne et des partenaires. Et cette commission indépendante, une fois qu'elle a sélectionné, ses nominations doivent être validées par l'Assemblée, ce qu'on appelle l'Assemblée générale des juges. Et il a fallu presque un an avant que cette Assemblée valide les choix qui avaient été faits par la commission d'évaluation sous des prétextes divers, absence de quorum, contestation, manœuvre de retardement, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun enthousiasme de la part du secteur de la justice, des juges, des procureurs qui sont actuellement en charge de laisser la place à une autre génération, parce que c'est en fait ça l'enjeu, c'est un enjeu politique mais aussi générationnel.
Nous parlons aujourd'hui de l'ambiance politique en Roumanie. Nous savons à Bucarest que les campagnes de désinformation russe anti-occidentale semblent préoccuper particulièrement la présidente pro-européenne Maia Sandu, d'autant plus dans la perspective de l'élection présidentielle qui sera en octobre, je crois. Je me trompe ?
Oui, en octobre. Voilà. En octobre. On parle du 20 octobre. Enfin, c'est pas encore officiel, mais ça sera autour de cette date.
Mis à part le soutien de ses partisans, des partisans de Maia Sandu, et aussi surtout de la communauté internationale, on l'a vu ces derniers mois, mais ces dernières années. Est-ce que vous sentez que ces soutiens-là de Maia Sandu seront, en tout cas jusqu'en octobre, plus forts que les pressions internes et externes?
C'est ce que j'espère, et je crois qu'on est nombreux à l'espérer, parce que la République de Moldavie se trouve vraiment à un moment historique. Hein, on est en train de changer d'air, de changer d'époque, de changer de direction, donc avec une orientation pro-européenne, mais aussi pro-réforme et anti-corruption. C'est très important ce trinôme.
Et depuis juin dernier, d'ailleurs, le pays a été invité par Bruxelles à rejoindre l'Union européenne en juin dernier,
Tout à fait. Et bien évidemment, cela suscite de la contestation, de l'opposition de la part de ce qu'on qualifie de les affiliés des oligarques et des pro-russes. Et ce qui est assez frappant en termes de lutte informationnelle, c'est que dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale, la Moldavie se décrit comme étant la cible d'une guerre hybride de haute intensité. Ce terme figure dans le rapport sur la sécurité nationale. Et je pense que malheureusement, c'est la réalité. Vous avez évoqué les attaques contre Sandu, et Sandu notamment est l'objet d'attaques de deepfake. Vous savez, on utilise l'intelligence artificielle pour la présenter,
pour faire des fausses vidéos. Oui.
Voilà, fausses vidéos, il y en a une notamment où elle annonce sa démission, tout simplement. Donc, l'idée générale derrière tout ça, c'est de semer le doute, parfois la panique, mais surtout le doute et l'incertitude, et de miner la crédibilité des autorités moldaves, leur crédibilité politique, leur crédibilité en termes aussi de capacité à faire bouger les choses. Et dans la question précédente, vous m'interrogez sur les faiblesses. J'ai parlé de la justice, il y a un deuxième secteur qu'il faut pas oublier, c'est celui de l'économie. L'économie moldave a eu beaucoup de mal à se remettre de l'année 2022, ils ont perdu 6 points de PIB. Et l'an dernier, ils ont eu une croissance ridiculement basse de 0,7%. Donc, il n'y a pas eu de rebond. Et ça, pour un pays qui est déjà pauvre, c'est difficile. Mais ils sont courageux et ils se retroussent les manches. Et effectivement, ils espèrent bien avancer sur la voie de l'Union européenne et de rejoindre bientôt la grande famille européenne.
Parce que selon les sondages, il y a toujours une partie importante de la population, enfin une majorité qui est pro-européenne.
Oui, la majorité est clairement pro-européenne. La difficulté, c'est que vous avez une partie de la société qui est pro-européenne, mais qui est aussi inquiète, apeurée, je dirais, par la Russie, et qui voudrait, d'une certaine manière, ménager la chèvre et le chou, et qui disent, c'est pas parce qu'on va rentrer dans l'Union européenne qu'il faut se fâcher avec Moscou. Le problème, c'est compte tenu de la guerre d'agression russe en Ukraine, malheureusement, il faut se fâcher avec Moscou. C'est ce qui s'est passé. Les autorités moldaves sont très sérieuses, notamment sur l'application des sanctions. Mais, par exemple, on parlait d'énergie, il y a une partie de la population qui continue à reprocher à Sandu de ne pas avoir été à Moscou négocier le tarif du gaz quand la situation était très difficile à l'automne 2022. Et aujourd'hui encore, ça fait partie, je dirais, de la désinformation, c'est que la Moldavie paie trop cher le gaz parce qu'elle refuse de parler avec la Russie.
Oui, alors que le problème, comme vous le disiez en début d'entretien, est résolu quelque part grâce à...
Tout à fait. Aujourd'hui, il est résolu.
Est-ce que selon vous, on peut espérer une élection présidentielle en octobre en bonne et due forme, c'est-à-dire que sans irrégularité au moment du scrutin?
Ça sera difficile. Ça sera difficile. Il y a malheureusement des exemples récents. On a vu ce qui s'est passé en Gagaouzie. On a vu ce qui s'est passé à la veille des élections locales à l'automne dernier. Il y a malheureusement des forces politiques qui sont prêtes à s'ingérer, et même des forces extérieures à s'ingérer dans le processus électoral moldave. Donc ça va être difficile, mais je crois que les autorités ont appris d'une certaine manière de ces différentes tentatives, on essaye aussi de les aider. Il y a maintenant en Moldavie une mission civile de l'Union européenne qui s'appelle la mission de partenariat, EUPM en anglais, et qui apporte son soutien contre les menaces hybrides. Et d'une certaine manière, les ingérences dans un processus électoral, c'est une menace hybride. Et donc, on espère que cela permettra de limiter les dégâts. Je pense que ça sera pas parfait, ça sera très difficile. Mais je suis personnellement assez confiant, à la fois sur le déroulement et sur les résultats. La grande question, ce sera la participation. Parce qu'on le voit bien, il y a une tendance des partis d'opposition, qu'on peut qualifier de pro-russes, de vouloir essayer de faire diminuer la participation pour limiter la légitimité, d'une certaine manière, de cette élection, parce qu'ils sont pas capables aujourd'hui de l'emporter. Mais par contre, ils ont les moyens de permettre d'éroder la légitimité de ces élections. Et donc ça, c'est un sujet de préoccupation, et je crois que dans les prochains mois, et c'est tout l'enjeu, c'est la participation. La participation en Moldavie, il faut pas oublier aussi la participation de la diaspora. Compte tenu de sa dimension, la diaspora joue un rôle très important sur le plan électoral.
Comme en Roumanie, oui.
Ouais.
Mais vous êtes relativement confiant pour cette élection?
Pour le moment, je le suis. C'est vrai que c'est compliqué parce que les sondages électoraux ici ne sont pas d'une grande fiabilité, mais ceux qui sont considérés comme sérieux donnent plutôt Maia Sandu avec une large avance. Il n'y a pas beaucoup d'autres candidats dans les autres partis, ou plutôt il y en a trop, et donc ils sont divisés. Donc normalement, elle doit pouvoir l'emporter. Après, il y a le sujet du référendum, qui est un sujet de contester ici. Mais on espère qu'il y aura
Référendum, pardon, excusez-moi, vous faites allusion au référendum sur...
Il va y avoir un référendum où la présidente de la République, et ça a été accepté par le Parlement et la Cour constitutionnelle, a proposé d'une certaine manière d'essayer de rendre le processus d'intégration européenne irréversible en faisant voter en même temps que le jour des élections présidentielles une phrase disant la Moldavie doit rejoindre l'Union européenne et que cela devrait se traduire après par un amendement à la Constitution.
Voilà. D'accord.
Inscrire la perspective européenne dans la Constitution. Alors c'est un sujet sensible, mais qui a pour mérite, et je crois que c'est pour ça que la présidente Sandu a décidé cette orientation, de stimuler, je dirais, les énergies européennes et de mobiliser l'électorat qui est en faveur de l'Union européenne, mais ça a effectivement comme un effet négatif, ça mobilise aussi ceux qui sont contre. Il y a un vrai débat.
En tout cas, espérons que les Moldaves n'auront pas la mémoire courte, parce que avoir réussi à faire que la Moldavie soit pays candidat à l'Union européenne en général, c'est un capital politique assez sur lequel...
Extraordinaire. Avec l'ouverture des négociations en décembre dernier, c'était une nouvelle étape qui a été franchie.
Vous me direz si je me trompe, mais je crois avoir lu que le gouvernement moldave aurait commencé à adopter des mesures visant la réintégration pacifique de la Transnistrie au sein de la Moldavie. Ouais. Alors ça, est-ce que vous pensez que c'est encore un petit peu un plan sur la comète ou c'est éventuellement envisageable?
Non, c'est envisageable parce que et c'est quelque chose qui n'est pas totalement perçu, mais on est encore une fois à une autre époque. Dans une autre ère, et l'attaque de la Russie sur l'Ukraine le 24 février 2022 a provoqué un bouleversement géopolitique qui s'applique aussi à Transnistrie. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le commerce de la Transnistrie avec le port d'Odessa, avec l'Ukraine, avec le reste du monde, parce qu'en fait, l'essentiel des échanges de la Transnistrie passée par Odessa a été coupé. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont fermé la frontière. Jusqu'à maintenant, il y avait une sorte de jeu en trompe-l'œil un petit peu entre la Transnistrie, l'Ukraine et la Moldavie et la Roumanie derrière, qui faisait qu'ils étaient relativement à l'aise. C'était une sorte de trou noir où on pouvait faire de la contrebande. Des biens arrivant d'Odessa changeaient d'appellation d'origine, pouvaient se retrouver ailleurs ensuite, et ils se sont partiellement enrichis sur ce modèle-là. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. La République de Moldavie contrôle 100% des flux entrant et sortant de Transnistrie. Donc, alors que d'une certaine manière, le rapport de force était plutôt favorable à Transnistrie, qui militairement est plus forte, où il n'y a pas de débat politique, donc ça lui donnait une capacité, je dirais, opérationnelle supérieure à celle de la Moldavie. Aujourd'hui, le jeu est complètement différent et c'est la Moldavie qui a les cartes en main, notamment parce qu'elle est candidate à l'Union européenne, parce qu'elle peut dire à la Transnistrie qui fait du commerce avec l'Union européenne. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que proportionnellement, 110% des exportations de Transnistrie vont vers l'Union européenne, alors que seulement 65% des exportations du territoire contrôlé par Chisinau vont vers l'Union européenne. Donc ils ont un intérêt à s'aligner sur les normes et standards. Et donc c'est ce levier que la République de Moldavie essaie d'utiliser. Et la première démarche, ça a été d'imposer à partir du 1er janvier 2024 le nouveau code des douanes, qui est inspiré en fait des recommandations de l'Union européenne, et donc d'obliger les entreprises transnistriennes à payer des droits sur l'importation de produits qui viennent de pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange. Et donc cela a provoqué des vives réactions de la part de Transnistrie, qui a pris conscience que les règles du jeu avaient changé, que Chisinau était aujourd'hui en mesure de leur imposer des mesures qui ne leur plaisaient pas, comme par exemple de payer des taxes, ce que normalement une entreprise fait. Mais cela a été difficile. Vous avez peut-être vu des réactions. Il y a eu une réunion du congrès des élus de Transnistrie. Il y a eu aussi des incidents avec des drones ou soi-disant drones qui ont fait exploser ou fait brûler un hélicoptère. Tout ça, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la gesticulation. Mais ce qui montre bien que les choses sont en train d'évoluer et que la Moldavie est en position aujourd'hui d'imposer, et je pense qu'ils ont l'intérêt de tout le monde, une sorte de convergence graduelle entre les deux rives du Dniestre. Cette convergence est importante parce que cela permet au territoire moldave, dans son intégralité, de se préparer à l'adhésion. Il n'est pas envisageable, du point de vue de l'Union européenne en tout cas, qu'il y ait, entre guillemets, un endroit de la Moldavie sur lequel le droit moldave, la fiscalité, les droits de douane, le droit commercial ne s'applique pas de la même manière. Donc il y a un effort à faire.
Ce que vous êtes en train de dire, oui, que c'est que l'intégration ne se fera pas sans la Transnistrie.
Tout est possible, mais je pense qu'en fait, il y a un intérêt aujourd'hui à utiliser le levier de l'adhésion européenne sur la réintégration, ce qu'on appelle la réintégration. Après, il y a des problèmes politiques, le statut de la Transnistrie à l'intérieur de la Moldavie, le statut des forces russes, régler le problème du dépôt de munitions de Kobasne. Il y a énormément de sujets, mais le sujet les plus importants pour la population, c'est effectivement les règles de base, par exemple la protection sociale. Aujourd'hui, la protection sociale est différente, l'âge de la retraite est différent, les impôts, le prix du gaz est différent, le prix de l'eau est différent, le prix de l'électricité est différent. Il y a une autre monnaie, il y a le rouble transnistrien. Donc, si on veut avancer vers l'intégration de manière graduelle et pacifique, comme c'est le projet du gouvernement actuel, il faut effectivement commencer à y réfléchir. Et donc, la première étape, encore une fois, sont les droits de douane qui devraient être suivis par d'autres mesures un peu techniques, je le reconnais, mais qui permettent aux deux régions de converger.
Alors, avant de vous poser une dernière question sur la francophonie, je sais en préparant cette émission que vous aviez envie qu'on en parle, on va en parler, mais quand je vous entends, ce qui ressort, c'est que cette crise contextuelle que nous sommes en train de vivre en Roumanie et particulièrement en Moldavie, eh bien, de façon assez paradoxale, a généré des énergies l'énergie des dynamiques quelque part positives en termes d'indépendance économique, énergétique, mais économique au sens large pour la Moldavie. Et puis aussi un rapprochement qui était déjà là, mais un rapprochement vraiment très perceptible et très concret entre la Roumanie et la République de Moldavie, un rapprochement économique, politique. Est-ce que vous diriez qu'effectivement c'est bien le cas ?
C'est tout à fait le cas. En fait, il y a eu une accélération de l'histoire. Ce qui est clair, c'est que avant le 24 février 2022, personne n'aurait pensé que la République de Moldavie pourrait être candidate à l'Union européenne, reconnue, acceptée, ouverture des négociations, que la République de Moldavie pourrait être indépendante de Gazprom. Personne ne le pensait, puisque en septembre-octobre 2021, il y a eu une nouvelle négociation pour 5 ans, une sorte de pacte léonin qui accordait à Gazprom des droits économiques, mais aussi des droits politiques. Et donc, on est dans un nouveau paradigme, complètement. Et ce qui veut dire que cette accélération de l'histoire, elle est riche en opportunités, et d'une certaine manière, les Moldaves ont essayé de maximiser ces opportunités, mais elle est riche aussi en risque. On le voit bien avec les tensions avec la Transnistrie, les menaces à peine voilées de la Russie sur l'indépendance et la sécurité de la Moldavie. Donc, c'est une phase que je qualifierais de délicate. Il faut faire attention, mais je crois qu'il est dans notre intérêt et dans l'intérêt des partenaires de la Moldavie, mais aussi de la Roumanie, de soutenir la Moldavie dans ses efforts de se dégager, je dirais, de la gange post-soviétique dans laquelle elle était toujours engluée, et d'avancer vers l'Union européenne et de se rapprocher avec la Roumanie, avec laquelle il y a des affinités qui sont pas seulement linguistiques, culturelles, historiques, mais des affinités de cœur. On le voit bien, la place de la Roumanie ici est une place très très importante, bien évidemment.
Passons à la francophonie. Et pour faire le lien, je me rappelle récemment, il y a plusieurs reprises, de ces photos entre Emmanuel Macron et Maya Sandu. Alors, je vais faire attention, la francophonie, ce n'est pas que la France, mais je vois également que situation a généré des liens renforcés d'un côté la France et de l'autre côté la République de Moldavie, mais plus généralement, cette francophonie-là, comment vous la ressentez en République de Moldavie? Petite parenthèse, RFI diffuse à Chișinău, donc cette émission est entendue par des auditeurs et auditrices moldaves. Alors, sans nécessairement faire le lien avec la situation actuelle, comment vous la sentez, la ressentez, cette francophonie en Moldavie?
Cette francophonie est très ancrée, parce qu'elle est ancienne. Hein. Elle date en fait de l'époque soviétique, même bien avant. Il y a toujours une affinité, les langues latines, bien évidemment, et puis une certaine attraction de la France, de Paris, de la culture française sur les populations de cette région. Et ce lien, cette affinité linguistique perdure. Clairement, il y a moins d'apprenants aujourd'hui que dans les années 80, par exemple, où c'était pratiquement obligatoire. À partir du moment où les jeunes moldaves étaient roumanophones, ils apprenaient le français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a quand même toujours plus de 30% des élèves moldaves qui apprennent le français, ce qui est remarquable. On estime environ 100 000 jeunes scolaires qui apprennent le français avec 8 lycées bilingues, avec aussi 8 filières universitaires francophones, donc il y a un socle très très fort. Et au-delà de tout ça, il y a un amour de langue française qui est véritable. Moi, je croise énormément de Moldaves qui sont presque gênés de me dire « Ah, j'ai appris le français, malheureusement, je l'ai pas pratiqué, je le regrette, mais parlez français, j'adore vous écouter, je vous répondrai en roumain ou en anglais, mais j'ai aucun problème pour vous comprendre. » Donc, tout ça, ça fait chaud au cœur. Et d'une certaine manière, la langue française reste une langue, encore une fois, qui fait partie de la vitalité de ce pays qui est polyglotte. Hein. Les gens parlent, la plupart des gens parlent plusieurs langues. Et c'est pour l'ambassadeur de France et pour tous ceux qui s'intéressent à la francophonie, très réconfortant de voir que cette francophonie reste dynamique. Cela étant, bien évidemment, il faut l'aider. Et avec l'Alliance française, avec l'AUF, avec RFI, parce que RFI est un soutien de la francophonie très fort, nous essayons d'entretenir la flamme. Et cette année est une bonne année pour le faire, à la fois parce qu'il va y avoir le sommet à Paris, à Villers-Cotterêts, en octobre, parce qu'il y a les Jeux olympiques, et nous on se sert beaucoup des Jeux olympiques pour promouvoir la langue française. On va organiser au mois d'avril et au mois de mai ce qu'on appelle les Olympiades de la francophonie, avec 24 établissements scolaires qui enseigne le français, et je suis très fier de pouvoir dire qu'on a même réussi à convaincre un établissement scolaire de Comrat, donc en Gagosie, et un autre de Transnistrie, de participer à ces Olympiades francophones. Et donc on estime qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour promouvoir la francophonie. Ça va de pratique du sport, mais aussi des échanges qu'on peut envisager, de la formation des professeurs. La formation des professeurs est très intéressante. Et aussi, bien évidemment, les échanges pour les étudiants. On a récemment réussi à financer un échange de la filière juridique francophone de l'Université d'État qui ont été à Paris. On voit toute l'importance que ça a pour ces jeunes, mais aussi l'effet, je dirais, boule de neige que ça a quand ils reviennent et qu'ils parlent de l'expérience qu'ils ont vue en France, la manière dont ils ont pu échanger avec des jeunes de leur français de leur âge qui... sont aussi dans les filières juridiques. Et puisqu'on parlait de la Roumanie, d'ailleurs, il y a un consortium des filières francophones de droit. Et ce consortium est bien représenté en Roumanie. Et donc, notre espoir, c'est que la Moldavie puisse se rattacher à ce consortium dont font partie les grandes universités roumaines et les grandes universités françaises de droit.
Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment d'avoir terminé cet entretien sur la francophonie et surtout pour votre regard de diplomate et votre analyse fine de ce qui se passe en Moldavie et de votre regard sur ce pays. Merci une nouvelle fois d'avoir été avec nous au micro du soir. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pourrez retrouver cet entretien sur la page RFI. Pardon, excusez-moi, sur la page Facebook de RFI, également sur le site rfi.ro. Merci à vous, Wikem Plakout. Au revoir.
Le micro du soir, Aïchla RFI.